Les parts actualités.
Bonjour et bienvenue à l'émission Les parts actualités. Hélène Denis avec vous en ce 21 mars 2018 en manchette aujourd'hui. Et si c'était vous? Elle doit socio-financer les obsèques de sa sœur. Aussi un transport adapté, inadapté dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Assouplissement des règles du revenu garanti pour les personnes handicapées. On parlera aussi de la Journée mondiale de la trisomie 21. En entrevue, j'aurai Michel Duchesne, auteur dramatique, réalisateur culturel, qui nous parle de la web-série Écrivain public et de cette profession d'écrivain public. Aussi, en entrevue, Patricia Drolet, directrice de la franchise cardio-plénaire de Sainte-Foy, pour nous parler d'un projet actif pour tous qui se déroulera le 25 mars. Et si c'était vous, chronique de José Legault publiée dans le Journal de Montréal. En plus d'être scandaleuse, la rémunération outrancière des médecins spécialistes siphonne le budget de la santé et des services sociaux. Les plus négligés, il faut le dire, sont les personnes handicapées intellectuelles et tout particulièrement les adultes. C'est comme si cette « clientèle » entre guillemets était devenue invisible. À l'instar de milliers de familles, étant proche aidante de ma sœur déficiente, je le sais d'expérience. Pour marquer la 30e semaine de la déficience intellectuelle, plusieurs de ces familles ont signé une lettre ouverte criant leur désarroi. Publiée dans Le Soleil, elle résume le drame humain dans lequel cet abandon sourd par le gouvernement les plonge. Leur plaidoyer dit la vérité toute nue. Pendant que les médecins passent à la caisse, ces familles dénoncent le sous-financement et le délabrement, le mot est juste, des services. Leur conclusion est d'une logique implacable. Nous sommes en colère, mais nous ne sommes pas dupes. Quand nous ferons notre X dans l'Île-de-Loire en octobre prochain, ce sera dans la case de ceux qui ont à cœur la place des plus vulnérables de notre société. Comme tant d'autres familles à bout de souffle, moi aussi je suis en colère. Ça fait 4 ans que j'ai demandé au CIUSSS un petit 2 jours mensuels de répit et j'attends toujours. Idem pour une ressource d'hébergement adéquate pour ma sœur. Et l'aide financière, comme elle habite avec moi, ça s'arrête à l'aide sociale qu'elle perçoit et aux grenailles risibles du programme Soutien à la famille. Elle doit socio-financer les obsèques de sa sœur, c'est dans TVANouvelle.ca. Une femme déplore le montant peu élevé accordé par le gouvernement du Québec aux familles endeuillées, après s'être résignée à lancer une campagne de sociofinancement pour payer des funérailles décentes pour sa sœur mourante. « Ce sont les derniers moments d'intimité avec ma sœur que j'ai l'impression de devoir vendre au public, juste pour qu'on puisse lui offrir une fin décente », soupire Josée Thibaudeau, 45 ans. Sa sœur Joanne, 63 ans, vit ses derniers jours dans un centre de soins palliatifs de la Rive-Sud. Elle est atteinte d'une forme grave et incurable de cancer de la moelle osseuse. Avec son salaire de 11,75 $ à titre de commis dans un CHSLD où elle a travaillé pendant 20 ans, la dame originaire de Montréal n'a jamais vraiment eu la chance d'économiser ni de se procurer une assurance vie. C'est que le montant de 2 500 $ offert aux proches de personnes décédées par le gouvernement du Québec par l'intermédiaire de la Régie des rentes ne permet même pas de couvrir le minimum pour ses frais funéraires. Surtout que cette prestation de décès est imposable et remise uniquement à la réception des factures des funérailles, donc après. Elle s'est donc résignée à lancer une campagne de sociofinancement sur Internet. Pour plus de détails sur la campagne, www.gofundme.com/pour que Joanne parte en paix. Le cas de Josée Thibaudeau est le reflet d'une triste réalité pour la société québécoise, estime la Corporation des thanatologues du Québec, qui rappelle qu'entre 30 % et 40 % des familles disposent uniquement des 2 500 $ offerts par Québec pour payer les frais funéraires de leurs proches. « Je joins maintenant Patricia Drolette, qui est franchisée cardio-plein air à Québec, pour parler d'une activité gratuite pour tous qui aura lieu très bientôt, le 25 mars. Bonjour, Madame Drolette.
Bonjour, ça va bien?
Oui, merci. Alors, que va-t-il se passer le 25 mars?
En fait, le 25 mars, c'est on donne le coup d'envoi du défi santé. C'est le rendez-vous actif qui va être offert par Cardio Plein Air dans 40 parcs du Québec.
Cet entraînement, donc, va se faire dans tous les parcs du Québec, c'est ce que vous dites? Tout le monde peut y participer?
Exactement.
Vraiment?
C'est un entraînement... Oui, c'est un entraînement qui est sur place. Donc, les gens se présentent dans le parc le plus près de chez eux. C'est pour les petits, les grands, la famille. On fait vraiment ça là à la bonne franquette. Ça va être accessible pour tous. Il va y avoir plusieurs alternatives, plein de mouvements pour que chacun puisse travailler à leur goût. Il va y avoir des gens qui vont montrer les exercices, des entraîneurs qui vont circuler à travers la foule pour justement corriger des parties. S'assurer que tout le monde s'entraîne en toute sécurité, puis surtout avoir du plaisir.
Et il va y avoir combien d'entraîneurs, justement, pour entourer, conseiller les gens qui vont y participer?
Ça dépend des parcs, ça dépend de la grosseur de l'événement. C'est sûr qu'il y a des régions que l'entraînement va être plus gros. Il y a d'autres, il y a des petites régions aussi. Donc, je vous dirais, là, on s'attend à avoir au moins 3-4 entraîneurs là, sur place dans les parcs pour animer et pour circuler à travers la foule.
Alors, vous l'avez évoqué un petit peu en début d'entrevue. Dans quel contexte s'inscrit ce rendez-vous actif?
Dans le fond, c'est pour le défi santé. Donc, on vous invite à aller consulter le site du défisanté.ca. Ce qu'on veut, nous, dans le fond, c'est que les Québécois adoptent de saines habitudes de vie.
Oui.
Donc, oui, c'est ça. On veut que les gens soient actifs, mais il y a aussi trois petites choses sur lesquelles le défi santé mise cette année. Mm-hmm. C'est qu'on veut que les gens mangent 5 % de fruits et légumes par jour.
Oui, on le savait. Hein. Ça fait quelques années qu'on nous le dit, mais on dirait que ça ne rentre pas.
Non, c'est pas à tous les jours. On dirait que des fois, c'est pas à tous les jours. C'est peut-être de faire des petits changements, d'apporter des collations, de préparer des crudités le soir quand on revient du travail. Donc, c'est de miser sur des petits changements au quotidien.
C'est 5 portions de fruits et de légumes, pas 5 portions de fruits et 5 portions de légumes. Mais idéalement, ça pourrait être ça, là, mais...
Idéalement, dans le meilleur des mondes. Mais nous, on dit, on commence par 5, puis ouais. Ensuite de ça, le goût va se faire. Donc, après ça, on pourra augmenter.
Okay.
Donc, défi santé, c'est ça. On incite les gens à manger 5 portions de fruits et légumes par jour. Mm-hmm. On veut bouger 30 minutes par jour. Quand on dit bouger, c'est pas nécessairement d'aller courir, c'est pas d'avoir un entraînement qui est structuré. On veut simplement que les gens soient un petit peu plus actifs.
Ça peut être marcher pour aller au travail 15 minutes, aller 15 minutes retour?
Exactement. Prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Ça peut être de débarquer un arrêt d'autobus plus tôt. Ça peut être de marcher, aller prendre l'autobus un arrêt plus tard. Aller jouer au parc avec les enfants. Ça peut être de prendre une promenade, mettre un petit peu plus d'énergie quand on fait le ménage. Donc, c'est simplement là, de changer des petites habitudes.
Oui.
On ne demande pas aux gens de s'inscrire, d'aller s'inscrire au gym. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens bougent un petit peu plus.
Oui, ce sont des objectifs quand même raisonnables, réalisables, il me semble. C'est pas décourageant pour personne. D'après
Exactement.
Moi, là, qui ne suis pas très sportive, là, il me semble que bouger 30 minutes quotidiennement, ça se fait.
Ça se fait bien, oui.
Mais pas quand il y a de la glace à l'extérieur, par exemple.
Bien, c'est sûr qu'il faut être prudent. Il faut choisir les bons trottoirs.
Oui, c'est ça. Puis on peut montrer aussi des escaliers intérieurs, pourquoi pas.
Exactement. Exactement. Et la troisième chose, mm-hmm. c'est qu'on demande aux gens d'être reconnaissants de 3 belles choses par jour. Donc, on veut dire des merci, profiter de ce qu'on a. Puis quand je parle de dire des merci, c'est pas des choses astronomiques. Là. Ça peut être simplement de dire merci. On est allé au travail ce matin, il n'y avait pas de trafic. Merci. Les enfants ont été sages à l'école. Merci. Le conjoint a préparé le souper le soir. On est content de ça. Donc, c'est pour diminuer l'anxiété, le stress, puis voir la vie positivement.
Oui, c'est
donc,
meilleur pour la santé plutôt que de chialer contre tout et n'importe quoi à longueur de journée. Oui, mais ça, est-ce que c'est nouveau dans le programme?
Ben c'est parce qu'il y a beaucoup de... Ben dans le fond, oui et non. C'est qu'il y a beaucoup, on le sait, hein, maintenant, on vit beaucoup de stress, on a des styles de vie effrénés, on court d'un côté de l'autre, puis on est beaucoup stressé. Mm-hmm. Donc maintenant, il y a comme tout un volet sur le site de défisanté.ca qui nous offre des conseils justement sur la détente, la gestion du stress, trouver un bon équilibre de vie. Donc, on veut vraiment la santé globale. Oui, on veut la santé physique, mais on veut aussi la santé mentale maintenant.
Oui, oui,
c'est un
l'un
tout,
ne va pas sans
hein,
l'autre.
C'est complémentaire.
Oui, un esprit
exactement.
Sain dans un corps sain.
Et voilà, vous avez tout compris.
Défisanté.ca, donc, et si on veut s'inscrire au grand rendez-vous du 25 mars, est-ce qu'on va sur le site de Défisanté ou on s'en
oui.
va chez Cardio Plein Air?
Sur le site de Défisanté, il est là. Mm-hmm. Aussi, si vous allez sur le site de Cardio Plein Air, vous pouvez entrer votre code postal et puis ils vont vous sortir le parc qui est le plus près de chez vous pour pouvoir venir participer à notre événement de dimanche qui est à 10h15.
Parfait. Donc, 10h15, c'est un rendez-vous jusqu'à midi. C'est gratuit?
Oui, exactement. Il va y avoir de l'animation, des prix de présence, du plaisir, des kiosques. Donc, c'est un bel événement là, pour lancer le coup d'envoi du défi santé.
Bon, alors, je vous souhaite des milliers de participants.
Bien, je vous remercie. Puis cette année, le slogan a tout son sens. Pas besoin d'être un athlète pour relever le défi qui a lieu du 1er au 30 avril. Et on invite les gens à aller s'inscrire dès maintenant sur le site de défisanté.ca.
Un grand merci, Patricia Drolet, franchisée Cardio Plein Air à Québec. Puis je vous souhaite une très belle journée le 25 mars.
Merci beaucoup. Au plaisir.
Au plaisir.
Au revoir.
Nouvelle sur le site de Radio-Canada, dans la région de Soulanges, en Montérégie, des personnes ayant une déficience intellectuelle sont incapables de se rendre à des activités ou à des plateaux de travail à Vaudreuil-Dorion, faute de transport adapté. C'est le combat de Pierrette Gamelin depuis près de 15 ans. Permettre à son fils de 40 ans, atteint d'une déficience intellectuelle, d'avoir accès à du transport adapté pour socialiser et fréquenter des organismes de Vaudreuil-Dorion, à une trentaine de kilomètres de chez eux. Pierrette Gamelin, dis-je bien, réside avec son garçon à Saint-Zotique, une municipalité de quelques 8500 habitants, située dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Jusqu'à l'âge de 18 ans, son fils Yann-Éric a étudié au pavillon Lionel Groulx de la Cité des jeunes à Vaudreuil-Dorion. La commission scolaire des Trois-Lacs lui fournissait alors du transport adapté. Une fois que son garçon a terminé ses études, l'enseignante retraitée a toutefois dû faire le taxi. Impossible pour Yann-Éric de se rendre à ses ateliers à bord d'un service de transport adapté. C'est que la municipalité de Saint-Zotique relève de la ville de Salaberry-de-Valleyfield et non de Vaudreuil-Dorion en matière de transport adapté. Elle lui verse un quote-part d'environ 15 000 $ par année. Le transport adapté de Valleyfield ne peut pas aller à Vaudreuil parce que ce n'est pas son territoire, explique Pierrette Gamelin. Et celui de Vaudreuil ne peut pas venir à Soulanges, région dont fait partie Saint-Zotique, parce qu'elle ne reçoit pas de quote-part. Résultat, Soulanges demeure orpheline. Un non-sens, selon Pierrette Gamelin, puisque les citoyens de sa région, en plus de relever de la commission scolaire des Trois-Lacs, sont servis par le C3S de Vaudreuil-Soulanges. Dans le quotidien.com, à l'âge de 22 ans, elle apprend qu'elle est atteinte de la maladie du lupus érythémateux disséminé, une maladie qui s'attaque aux tissus conjonctifs du corps comme la peau, les yeux, les tendons, les muscles et les organes. Roxane Lapointe souffre depuis qu'elle a 21 ans, mais le diagnostic tombe lorsque son père l'amène à Québec pour soigner ses symptômes de fatigue et de douleurs musculaires. En arrivant à Québec, je suis tombée dans le coma. Deux semaines plus tard, j'apprenais que j'avais le lupus. Ça a été très long avant de m'en remettre, confie la femme qui vient de terminer un projet d'écriture, des cicatrices sur l'ADN. La maladie s'est tenue tranquille de 2004 à 2007, mais de 2007 à 2014, j'ai connu l'enfer et j'ai vécu des hospitalisations de plusieurs mois dans la souffrance et la douleur. J'ai perdu l'usage de mes jambes en 2009, il a fallu des mois de réadaptation. Il fallait que je me rapproche de ma famille pour ma guérison et je suis revenue au Saguenay en 2015. J'y ai trouvé un peu de répit et à 38 ans, j'ai terminé mes études en création littéraire à l'UQAC, mais en relief l'auteur qui fait une démarche d'autofinancement pour publier son livre, son projet littéraire de fin d'études. Mon livre, Des cicatrices sur l'ADN, raconte l'histoire d'Emma Wolfe, une TDA qui vit le rejet et l'intimidation de 8 à 40 ans. Elle vit au travers des 5 blessures de l'âme et sa grand-mère tente de l'aider à travers une correspondance en lui écrivant des lettres pour la conseiller. Détail celle qui voit beaucoup de similarités entre sa vie et celle de sa grand-mère. Son projet qui est à l'étape du sociofinancement. Vous pouvez taper tout simplement « Des cicatrices sur l'ADN » dans Google. Et j'ai le plaisir de m'entretenir maintenant avec Michel Duchesne, réalisateur, auteur dramatique depuis plus de 20 ans, qui a un jour répondu à une offre d'emploi comme écrivain public dans Hochelaga à Maisonneuve, qui a changé sa vie, je crois bien. Bonjour, Monsieur Duchesne.
Bonjour à vous.
Oui, alors, première question avant de parler de votre web-série. Qu'est-ce qu'un écrivain public? Est-ce que c'est une vraie profession?
Oui, c'est une vraie profession, méconnue ici et peu répandue. Là, j'ai été à l'époque le seul sur l'île de Montréal. Depuis, ça a essaimé un peu. Il y en a, entre autres, à Magog, il y a un organisme qui s'appelle Le Train des mots, il y a plusieurs écrivains publics. Mais à la base, un écrivain public, c'est quelqu'un qui va aider les gens à rédiger des formulaires, des plaintes, des demandes d'aide, que ce soit pour le logement, la santé, le travail. Il ne faut pas oublier que une personne sur deux au Québec est analphabète fonctionnelle, savoir, oui, ils sont capables de lire les gros titres d'un journal, lire les adresses, un commerce, mais après ça, écrire, c'est...
une autre paire de manches.
C'est une autre paire de manches. Oui. Et ça s'accompagne souvent donc d'une faute aux deux mots. Alors, imagine une lettre de présentation avec un CV.
C'est pas vraiment une bonne carte de visite.
Non.
Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Ça, c'était en 2014, si j'ai bien lu.
Oui, durant 2 ans, à raison de 15-20 heures semaine, donc j'ai été employé par un organisme en alphabétisation et j'allais d'un organisme à l'autre, le chez Cresto Pop, un sous-sol d'église, un autre organisme parrainé par Centraide. Alors, sur le terrain, c'est une immense solitude. Moi, j'étais dans mes illusions que chaque personne qui est en détresse ou chômage ou assistance sociale sur un temps avait souvent quelqu'un à qui parler, qui l'aidait, qui disait, il y a une telle formation, tu devrais peut-être t'inscrire à ça. Je me rendais compte que
c'était pas ça du
vraiment
tout.
Dans une bulle de très rose. Les gens sont tout seuls et il n'y a plus de fédérateur commun, à savoir, il n'y a plus de sous-sol d'église où tout le monde est au courant que il y a une tombola ou on va faire tel cours. Tout ça. Fait que les gens sont même pas au courant des ressources qu'il y a souvent à deux coins de rue. T'sais, je donnais souvent l'exemple de mères monoparentales qui sont essoufflées, qui n'en peuvent plus, tout ça, savent pas qu'il y a de l'aide alimentaire à deux coins de rue, qu'il y a des garderies spécialisées là, pour la détresse à deux pas.
C'est très dommage, l'information qui ne circule plus à l'ère des réseaux sociaux.
Ben, c'est ça, oui, mais imaginez, si tu ne maîtrises pas bien l'écriture, là, comment tu vas aller chercher justement sur Google cette information-là? Oui. C'est l'absurdité aussi des gens qui sont pas nécessairement analphabètes, mais qui parlent une autre langue ou pour qui le français est encore une montagne, en tout cas, à tout le moins un obstacle.
Oui, oui.
Comment tu fais pour chercher une job quand 90% des emplois maintenant sont affichés uniquement sur Internet là, et par référence?
Mm-hmm. Et dans votre série, la web-série Écrivain public, on le voit bien, le lieu communautaire est important, mais à un moment donné, il va être en péril. De votre expérience, justement, d'écrivain public est né un roman en 2016, publié chez Le MÉAC. Et ce roman a inspiré la web-série Écrivain public. On en est déjà à la 2e saison. Quelle est l'intrigue? Ça tourne autour de votre expérience.
Oui, c'est toujours, je donne la formule comme si c'était une recette, là. Un tiers, donc un tiers d'événements réels sur le terrain, tiers de mon indignation personnelle et de la famille immédiate, et un tiers de arrangé avec le gars des vues, donc de fiction. Mais c'est vraiment un individu qui, plutôt que rester en colère et être cynique face à la corruption, à l'impuissance qu'on ressent souvent à changer la société, décide d'aller aider avec les mots.
Incarné par cet écrivain public, par Emmanuel Schwartz, qui est vraiment très, très, très bon, très naturel.
Ah oui, il est très touchant. Il, oui. Il a gagné d'ailleurs à Marseille un prix d'interprétation. Oui. On espère qu'il va avoir le Gémeaux cette année.
Bien, on lui souhaite parce qu'il est plus authentique qu'authentique. Puis les autres personnages aussi qui gravitent autour de l'écrivain public.
Oui, ben il y a Jojo qui est joué par Sandrine Misson parce que j'ai voulu, quand je vous disais donc de l'organisation avec mes personnages, représenter des problématiques sociales. Donc, il y a une mère monoparentale latino-québécoise, il y a la détresse de la maladie mentale qui est le personnage de Jojo joué par Sandrine Misson, parce qu'avec la désinstitutionnalisation, ben on a des gens qui n'ont pas toutes les ressources pour fonctionner. Il y a le directeur qui est un peu la résistance au changement parce que Mathieu, le personnage de l'écrivain public, veut bousculer l'ordre un peu établi et surtout l'attentisme. Et il y a un personnage très touchant aussi qui est joué par Joanne Fontaine, mm-hmm. Son personnage de Pauline, qui, elle, incarne cette colère-là et qui est tannée d'être... Les gens qui veulent améliorer leurs conditions, oui, ça leur prend une certaine énergie, oui, ça leur prend des ressources, de l'aide, mais la machine est tellement lourde à faire bouger. Juste les logements sociaux, c'est 371 personnes qui attendent avant vous. Donc, les mères monoparentales, là, quand ils disent je vais avoir une coop ou un logement social, tu sais, j'étais triste de leur dire, mais ça va prendre 4 à 5 ans. Là.
Ah oui. À un moment donné, on peut comprendre les gens qui se découragent, mais en même temps, il faut quand même garder espoir.
Ben, c'est ce que c'est ce que j'ai voulu dans le roman et aussi la série, c'est qu'il y ait de la lumière, parce que ça ne me tentait pas là, de créer une œuvre qui est serait encore plus
sans issue.
Désespérante. Ouais. Non, c'est ça. Parce que oui, les mots peuvent faire une différence. Puis oui, il y a encore des humains qui aident des humains. Il n'y a pas juste l'homme n'est pas juste un loup pour l'homme. Il y a des bonnes personnes. Puis c'est aussi un hommage à tous ces gens qui travaillent dans le milieu communautaire. Puis on pourrait l'élargir à tous ces gens qui sont dans le milieu de l'enseignement en ce moment. C'est pas valorisé. Ils sont épuisés. On l'a vu avec les infirmières récemment. Les humains, en ce moment au Québec, qui aident les humains, là, ils se font varloper. Oui. C'est pas reconnu. L'écrivain public est un hommage, je vous dirais, à ces gens-là.
Alors, j'invite les auditeurs de Canal M à aller jeter un coup d'œil et même suivre la série comme je l'ai fait, parce que quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. La web-série est diffusée sur TV5, c'est ça?
Oui, sur tv5.ca, donc n'importe où, vous pouvez l'écouter sur votre tablette, sur un écran. Et les deux saisons sont là. En ce moment, c'est la saison 2 qui est mise de l'avant, mais vous avez juste un petit onglet à changer pour voir les premiers épisodes de la saison 1.
Et on espère que votre série ait un écho auprès des pouvoirs publics. Michel Duchesne,
merci
beaucoup, puis encore une fois, félicitations, puis on souhaite qu'il y ait un petit miracle qui se passe, plusieurs petits miracles.
Mais ne lâchons pas, il faut rester indigné avec le sourire.
Oui, oui.
Merci.
On reste indigné avec le sourire. Bonne journée.
Au revoir.
Sur InfoPresse, conçue par FCB Toronto pour la Société canadienne de la trisomie 21, les publicités veulent rappeler de ne jamais dire « désolé » aux parents d'enfants trisomiques. La Société canadienne de la trisomie 21 avait lancé l'offensive l'année dernière avec la publicité « Anything but sorry » qui mettait en scène de jeunes atteints du syndrome de Down. Ceux-ci expliquaient de façon amusante, employant parfois des jurons, pourquoi le mot « désolé » peut être inapproprié. Pour la Journée mondiale de la trisomie 21 aujourd'hui, les acteurs de cette opération reviennent à la manière d'un avertissement télé nous mettre en garde contre les excuses. La publicité veut souligner qu'au cours d'une vie, vous aurez plusieurs occasions d'être navré, que ce soit à cause d'un retard ou de l'oubli d'un anniversaire, mais de ne surtout pas être désolé lorsque vous parlez d'une personne. Gardez vos excuses lorsque vous aurez vraiment échoué, explique-t-on. Plusieurs interprètes de la récente campagne ont fait leur début dans Down Syndrome Answers, publicité pour la Société canadienne de la trisomie 21 de 2016, gagnante de plusieurs Lions de Cannes. Alors hier, je vous avais dit que je reviendrais sur cette nouvelle que j'ai pas eu le temps de lire, mais là, je vais prendre le temps. Handicap mental, petit à petit, le sexe fait son lit, c'est dans libération.fr. Vers la fin d'un tabou, longtemps occulté ou abordé uniquement sous l'angle des risques, la sexualité des personnes en situation de handicap mental est de plus en plus prise en compte, notamment dans les établissements médico-sociaux. En France, 700 000 personnes présenteraient une déficience intellectuelle qui entraîne souvent une limitation de l'autonomie, selon les chiffres de l'Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis. Certains d'entre eux résident et ou travaillent dans des établissements adaptés, médicalisés ou non, des lieux où la vie affective est soumise à une surveillance. Si les relations sexuelles entre résidents ne peuvent plus être interdites dans les règlements intérieurs, les personnes handicapées mentales rencontrent néanmoins des difficultés dans leur accès à la sexualité, explique Lucie Nayak, docteur en sociologie. Les lois fondamentales, notamment la Convention européenne des droits de l'homme, garantissent à chacun le respect de sa vie intime. Les associations gestionnaires ont dû s'adapter, par exemple, en mettant en place des chambres pour accueillir les couples, voire des studios. Certains établissements médico-sociaux mettent en place des groupes de parole sur la sexualité, des rendez-vous avec des psys, des ateliers. À l'instar des établissements scolaires, ils sont aussi tenus d'organiser des séances d'éducation à la sexualité. Des sessions qui, malgré la prise de conscience, sont encore loin d'être généralisées. Assouplissement des règles du revenu garanti pour les personnes handicapées. Le gouvernement de l'Alberta veut faciliter l'accès aux revenus garantis pour les personnes sévèrement handicapées, ce qui veut dire qu'elles pourront recevoir cette allocation mensuelle, même si elles ont une fiducie établie à leur nom. Selon la loi actuelle, une personne n'est plus admissible pour ses revenus si elle a des actifs valant plus de 100 000 $. Le nouveau projet de loi, s'il est adopté, permettra aux familles d'établir des fiducies pour leurs enfants. Selon les nouvelles règles, ces personnes auront, entre autres, un an pour établir une fiducie après avoir reçu un héritage avant que leur prestation en souffre. Si le projet de loi est adopté, cette mesure entrera en vigueur le 1er avril. L'invitation soirée bénéfice vin et fromage du CIVA. Aujourd'hui même, vous allez pouvoir déguster de bons fromages d'ici, découvrir des vins sélectionnés avec soin par M. Yann Janvier, sommelier. Comme à l'habitude, une magnifique table d'encan vous fera découvrir, entre autres, plusieurs créateurs québécois. Il s'agit d'une belle occasion de se gâter pour la bonne cause. CIVA, Centre d'intégration à la vie active. C'est tout pour les paractualités de ce 21 mars 2018. Merci à mes invités, Patricia Drolet, directrice de la franchise cardio-plénaire de Sainte-Foy, et Michel Duchesne, auteur dramatique, écrivain public, auteur ou réalisateur de la web-série Écrivain public à voir sur TV5 et du roman aussi Écrivain public. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson à la recherche et Jean-Sébastien Laliberté à la technique. Merci aussi à vous qui êtes à l'écoute. Ici Hélène Denis. Bonne journée, à demain.